Je voudrais rebondir sur l'idée collective, parce que moi j'ai des élèves, donc des jeunes générations, et je trouve que la façon d'aborder le jeu, en effet, est très liée aux relations qu'ils ont entre eux, les écritures de plateau, c'est les choses qui les touchent, l'idée de collectif, c'est une chose que moi je ne partageais pas lorsque j'ai commencé le théâtre. Il me semble que tout ce dont vous parlez, donc qui repositionne, donc qui remet en perspective la liberté de l'acteur, ce sont des choses qui sont très très importantes pour nous, parce qu'on le vit au quotidien. Les relations et la qualité des relations dans une classe de théâtre est une chose qui a une importance énorme aujourd'hui. C'est une chose, en tant que je fais part de mon expérience, mais il me semble que la façon d'aborder le jeu aujourd'hui est vraiment nouvelle, que ces formes, ou en tout cas que ces expériences, par exemple collectives du Théâtre du Soleil, sont des choses qui sont extrêmement importantes, et je pense notamment au projet de l'année prochaine. Je pense que c'est des choses qui sont très très importantes et qu'on a intérêt à mettre en action et en réflexion par rapport à notre enseignement. Je trouve que oui, le jeu de l'acteur est abordé différemment, et que en tant que pédagogue, on a besoin de se nourrir, parce que cette question fait école. C'est-à-dire que, en effet, comment on estime la liberté de l'acteur dans un collectif auprès d'un metteur en scène, y compris avec le texte qu'on travaille, tout ça repositionne la place de l'acteur, et on a besoin de le mettre en perspective, en tout cas pour nos élèves. Voilà.
Je voulais juste souligner ce que tu disais sur l'osmose d'un groupe, en fait, d'élèves. Parce que moi, quand j'ai commencé à enseigner, c'était vraiment une verticalité. C'est-à-dire le professeur, les enseignants que j'ai eus, ils délivraient un savoir. Et maintenant que j'enseigne, je suis toujours, cette année encore, je suis toujours étonnée à la fin de l'année de voir à quel point finalement le travail d'une année, le bénéfice qu'ils en ont, comment ça vient d'eux. Je suis toujours étonnée de la qualité de la relation du travail, de la qualité de leur relation à eux, comme si pendant l'année, je n'en avais pratiquement rien vu, parce qu'on a la tête dans le guidon et là sur nos auteurs et sur le travail qu'on leur donne à faire. Et tout d'un coup, il y a quelque chose comme ça qui est presque comme un avènement où on découvre son groupe presque à la fin de l'année, et des liens forts qu'ils ont tissés et entre eux et avec le matériau, comme on dit. Voilà, c'était juste ça, parce que je suis toujours frappée de ça en fin de saison. Puis je vais passer, parce qu'il y avait autre chose sur laquelle je voulais rebondir, et je ne me souviens plus. Tant pis, voilà.
Moi, je voulais dire que moi, j'avais travaillé sur ces questions-là, notamment à l'université, sur l'imitation du statut de l'interprète dans le collectif artistique contemporain. Donc j'avais pris comme corpus le travail de Arpa Schilling et C.G. Stan. Et c'était évidemment la question que je me posais à l'époque, c'était le grand projet, comment tous ces collectifs issus des années 70, comment ces collectifs les avaient revisités et réinterprétés avec la conjoncture actuelle, les intermittences, etc. puisqu'on ne peut plus vivre ensemble comme avant, et puis ça posait d'autres questions. Alors ça me pose vraiment, moi c'était le lien avec le projet politique, comment l'art peut être encore questionner notre société, et effectivement la démocratie, et c'était aussi avec des économistes qui parlaient, par exemple, il y avait un économiste qui avait écrit un article, qui s'appelle Frédéric Lordon, et qui avait pris le Théâtre du Soleil comme appui à un moment pour essayer de désigner une démocratie, un exemple de démocratie participative, et qui disait que c'était un beau modèle utopique, mais qui pouvait enrichir aussi le domaine, le champ de l'économie. Et ça, ça m'intéressait beaucoup de transversaliser ces questions-là. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ben, moi j'enseigne donc en conservatoire, qui passent le bac, font de la philosophie et tout, et se posent des vraies questions. Est-ce qu'aujourd'hui, comme ils voient le collectif et que c'est très vivant sur le plateau et qu'ils parlent à leur nom, qu'ils se réattribuent une parole et un pouvoir aussi, parce que la prise de parole et la prise de pouvoir quand même, bien que. Et l'auteur, comment on arrive à leur faire confiance et à leur donner la parole, les rendre auteurs, eux, tous les jours, ils en parlent, quoi. C'est pas quelque chose de très. Moi, je trouve qu'ils se posent beaucoup. Enfin, c'est pas si loin dans leur esprit. Parce qu'en plus, il y a plein de trucs dans les médias, Internet et tout, où tout le monde parle de sa vie. Enfin, il y a plein de choses en parallèle. Alors maintenant, c'est de recréer collectivement quelque chose d'intéressant. Et là, je rebondis un peu sur ce que vous racontez, comme vous disiez, Bruno Paquel, vous attendiez un poète. C'est-à-dire qu'à un moment, moi, j'entends bien, enfin, j'essaie.
Jean Villard, attendez le poète.
Oui, mais là, par exemple, moi, ça me fait penser, ça me fait penser un peu à la question. Est-ce que le soulier de Satan, est-ce que c'était un modèle pour vous de quelque chose qui a pris forme à l'époque, enfin dans l'histoire du théâtre de la Cour d'honneur, est-ce que c'était quelque chose de réussi pour vous ?
Oui, bien sûr, on peut parler de soulier comme d'un contre-exemple, puisque c'est en effet. Mais est-ce que c'est pas déjà un classique en même temps quand ça arrive ?
Vous voyez ? Mais la question est difficile parce que eux.
C'est un texte contemporain.
Les poètes sont écrasés par les auteurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi se sentir contrés. Il faut leur donner la légitimité de prendre la plume ou la parole. Enfin, c'est un peu la même chose, hein, quand même, sur un plateau. Et je pense, alors moi j'avais travaillé un peu avec le modèle d'Art Pacini, où il avait lui travaillé avec les circassiens. Et là, c'est vrai que lui, ça pouvait fonctionner dans la mesure où ce sont des personnalités, des individus qui avaient tous un agrès, enfin, ils savaient faire, il y en a qui faisaient trapèze, il y en a qui faisaient ça, qui faisaient. Et après, ils se mettaient en collectif et ils racontaient un récit. Ils avaient écrit une avance. Ils écrivaient ce qu'ils voulaient. Mais voilà, il y avait des spécialités. Et c'était un modèle, enfin, moi j'ai trouvé que ça avait bien fonctionné. Alors après, je pose la question, dans une école, comment rendre ces élèves qu'on a, nous, qui ont ce désir très fort de vivre des choses intenses, que de vivre sur un plateau ensemble, parce que s'ils font du théâtre, c'est pour ça. Souvent, c'est pour jouer ensemble, se retrouver ensemble, dans une où ils sont très isolés maintenant, chacun. Et comment, justement, les projets, quels seraient, parce que est-ce qu'ils se sont. Alors, on va étudier les classiques, bien sûr, les Stanislavski, enfin, même, enfin, toutes les méthodes qui ont été. Ça, c'est. Mais quand ils ont 18, 25 ans, voilà, est-ce que vous pensez qu'il faut des auteurs. Enfin, comment ça peut se réaliser, ce genre de. Avec plusieurs personnes, par exemple, qui s'occupent de la lumière, comme gros. Enfin, je sais pas. Comment on peut donner naissance à des. Comme ça.
Ben justement, on ne peut pas être volontariste avec ça. Me vient l'exemple du TNB. L'école du TNB, ça a été, on peut dire, après la révolution pédagogique du TNS par rapport au conservatoire, c'est une vraie nouvelle donne pédagogique. Il y a un artiste qui, pendant 3 ans, décide de faire avec l'école comme si c'était une œuvre, quoi. De la prendre au sérieux comme s'il faisait une mise en scène. C'est Christian Collin, c'est Thérèse Cotenceau, c'est vraiment un projet artistique, j'insiste, vraiment un projet artistique pour une école. Ça dure 3 ans, il avait clairement dit qu'au bout de 3 ans, il reviendrait à son travail de metteur en scène, qu'il arrêterait, et ça donne les Lucioles. Vous voyez où en sont les Lucioles aujourd'hui, toujours en collectif, on peut toujours vivre ensemble aujourd'hui, hein, je vous rassure, c'est possible. Car, et voilà, ils ont des maisons, les Lucioles ont des maisons. Voilà, il y a la maison des Lucioles, il y a toujours eu depuis 20 ans la maison des Lucioles. Il y a toujours, donc c'est quand même intéressant de voir. Et je dis ça parce qu'à l'époque, la notion de collectif n'était absolument pas dans notre vocabulaire et dans le paysage, mais alors pas du tout. Et que vient d'arriver, ça c'est joli, 20 ans plus tard, un nouveau collectif sortant, hein, parce que ce qui est très beau, c'est que les Lucioles naissent vraiment, c'est quasiment la chrysalide, enfin c'est le papillon qui sort après les 3 ans. Quoi. Il y a comme une espèce d'évidence absolue à ce qu'ils travaillent ensemble. Il vient de se passer exactement la même chose avec la première promotion d'Éric Lacascade dans cette même école. Et je sais si Éric est un. Lui aussi a une intelligence artistique de la pédagogie, enfin fait de la pédagogie un enjeu majeur de son travail, depuis toujours. Et donc, voilà, mais je répondrai quand même, c'est pas volontariste. C'est-à-dire que faudrait pas se mettre à penser, eh bien, alors faisons l'école qui produirait les collectifs ou les troupes de demain. Ça me paraît très... Parce qu'en effet, il y a une alchimie quand même assez particulière. Et alors moi, je pose une question, donc je suis un petit peu plus transversal. Est-ce que vous ne trouvez pas que vos élèves travaillent, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, travaillent beaucoup trop? Je m'explique. C'est-à-dire que comme on travaille sur la logique plateau, la logique répétition, donc cette espèce de monade sans porte ni fenêtre, hein, l'idée que c'est le monde entier qui est là sur le plateau, donc il n'y a pas de dehors. Le dehors finit par vraiment disparaître. Et je vous assure que dans les villes, je voyage beaucoup, voilà, et ben ça fait bizarre, quoi. Les 15 gamins de telle école qu'on ne voit jamais, ça fait bizarre. Et je vous assure que j'y réfléchis de plus en plus en me disant... Est-ce que c'est pas aussi dehors l'école quand même? Est-ce que cette façon de tout clôturer comme ça, est-ce que c'est pas un peu...
Ça a un lien avec le travail. Je crois que ta question, tu la poses autrement là. C'est-à-dire que tu parles de la question de se frotter à la vie, de peut-être de problèmes rencontrés. C'est vrai qu'il y a certaines écoles qui sont un petit peu dans des cocons. J'ai pu observer moi aussi le cocon, de très choyé autour des vaches, etc. Et un peu déconnecté de tout. Mais c'est plutôt l'idée de se frotter à la vie.
C'est ça, oui, tout à fait. Oui,
donc
c'est...
de travailler trop, parce qu'on travaille trop.
Quand je dis le travailler trop, est souvent l'argument qu'on donne pour ne pas... Par exemple, si je mets en relation les gens du Pérou, pôle d'exploration des ressources urbaines, Sébastien Thierry, Gilles Clément, Patrick Bouchain, donc tous ces gens qui vont dans les marges et qui font école dans les marges, l'école des situations, dit Sébastien. Bon, ben, je proposerais de mettre en relation les élèves de leur cascade, par exemple concret, c'est pas très loin au fond. On se dit, d'aller passer 2 semaines à Cambrai avec le Pérou, c'est-à-dire en faisant ambassade, en étant les ambassadeurs du centre-ville qui va à la marge. Est-ce que ça peut rentrer dans un pédagogique? Oui, non. La réponse des directeurs aujourd'hui, à mon avis, sera non. Et pour des raisons tout à fait simples, qui est, mais quand même, tu ne te rends pas compte, le planning, on a quand même une saturation du temps et ce n'est pas plastique.
Voilà,
quoi.
C'est ça. C'est-à-dire un cadrage du temps qui permet de... Moi, je le vois bien parce que à Arta, qui est un lieu de studio, d'école, on a une maison.
Vous avez des fenêtres.
Et on n'est pas une institution, ce qui fait qu'on peut travailler la nuit, on peut travailler dehors, on peut travailler dans le bois, on peut travailler de... Et c'est extraordinaire parce que tout ce que ça ouvre comme latitude, parce que si jamais ils ont envie de travailler la nuit, on laisse les clés, on laisse le code et puis on s'arrange. Et c'est fou parce que ça permet vraiment d'ouvrir les exploration de manière inouïe. Tu peux travailler dans le froid, dans le chaud, dehors, et après tu peux sortir, tu peux travailler... Enfin, c'est à toute heure du jour et de la nuit, ça évite ce côté cloisonné qu'on rencontre parfois. Et parce que vous parliez de... Effectivement, c'est extraordinaire aussi de pouvoir... faire travailler ensemble des gens qui ont une formation plutôt musicale, avec des gens, des circassiens, des danses, et ça, qu'est-ce que ça manque pour... j'ai rencontré tout à l'heure un metteur en scène, David Lescaut, il disait, mais je lui disais, qu'est-ce qui te manque actuellement chez l'acteur? Il dit, c'est peut-être plutôt... Cette propension comme ça à pouvoir passer, à pouvoir articuler le chant, la danse, etc. Et ça manque. Parce qu'on dit, parce que c'est extraordinaire, effectivement, ce que vous dites. Hein, c'est-à-dire, moi, je vois sur Paris 8, par exemple, quand il y a les possibilités de travailler avec les circassiens, ça bouge tout le monde. On peut tout d'un coup travailler du pichette avec les pierres. C'est extraordinaire, des corps à corps, des choses qui amènent explorer l'espace, les rapports de manière inouïe. Et toutes ces convergences entre le danse-théâtre, la musique, le chant, etc. Moi, je trouve que parfois, dans les écoles, c'est tellement cloisonné que c'est très très difficile de créer des projets qu'il faut tout d'un coup pouvoir faire appel à la musique, etc.
C'est pas que c'est cloisonné, c'est qu'il n'y a pas la case, tout simplement.
Voilà,
il faut maintenant penser nos écoles en termes de bac plus 5. Pardon, je reprends ma casquette un peu.
Parce que c'était bien, tu parlais de la
CIF. On a besoin d'un deuxième étage. On a besoin d'un deuxième étage.
Il y a tous les corps de métier, là.
On a besoin d'un deuxième étage. Et en fait, le projet de Vassiliev, il aurait pu prendre, la greffe aurait pu prendre. Si ça avait été pensé en tant que master, d'un point de vue technique, ça ne peut pas se penser. Il faut vraiment le penser comme quelque chose qui vient après. Et tu as complètement raison. On parle, par exemple, dans ce théâtre, comme d'un acquis, comme d'une évidence, du rapport à la musique, comme si ça allait de soi. Et il y a en effet du rapport à l'écran, l'acteur enregistré, l'acteur en jeu, plateau, écran. Tout ça n'est traité nulle part. Il n'y a aucune formation où véritablement on peut dire, ben là on apprend à ce qu'il y ait une caméra sur un plateau, tout simplement.
Et
pourtant on a des compétences. Hein. Des gens comme Cyril Test, par exemple, travaille là depuis des années. On a vraiment des gens qui ont de vrais savoir-faire dans ces sujets-là. Mais c'est vrai que les écoles ne s'y sont pas ouvertes.
Il y a aussi les questions de responsabilité. Tu vois, les expériences menées avec Antonio, moi j'ai pris des risques inouïs. Question assurance.
Ah oui.
Bah, c'est-à-dire que tout d'un coup, si tu travailles dans les fins fonds de Saint-Denis, où tu as une fille qui disparaît toute la nuit parce qu'elle va faire une errance le long du périphérique, etc., c'est des mises en situation qui...
Oui.
Je vais juste ramener quand même juste le débat, parce que tu poses la question, est-ce que vous élèves ne travaillez pas trop dans vos écoles? Je ramène juste que nous, on enseigne au niveau des conservatoires, ce qui s'appelle les conservatoires. Donc on n'est pas dans des écoles supérieures.
Tu crois pas que c'est le même esprit? Parce que c'est quand même le même modèle.
Non, mais tu fais bien de poser la question. C'est une question très intéressante. Et puis ça rebondit quand même. Il y a des choses qui évidemment se retrouvent. Mais juste, je ramène ça parce que il y a dans les conservatoires effectivement ce qu'on appelle les sites d'orientation professionnelle où on est dans ces questions-là qui se rapprochent un peu plus des conditions des écoles supérieures. C'est-à-dire que ça bosse 20 à 30 heures par semaine, voilà, donc on se rapproche des conditions de l'école supérieure. Et effectivement, la question peut se poser à cet endroit-là, mais on est aussi dans des structures qui s'appellent les conservatoires, et justement, où il y a un enseignement de la musique, un enseignement de la danse, contrairement aux écoles supérieures de théâtre, c'est-à-dire qu'on a ces compétences-là, et ces spécialités-là, et même dans certains conservatoires, les arts plastiques aussi. Hein. Donc, et ça, dès le jeune âge, je dirais, dès le début de la formation. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, on retrouve...
Pardon, vous avez bien profité de cette transversalité.
On est au cœur de ça, mais par contre la question...
Non mais je ne connais pas les détails, c'est vraiment des questions ingénues. Donc vous arrivez à construire des projets...
Tu fais bien de poser parce que c'est vraiment un enjeu en plus très fort, qui est ce qu'on appelle le décloisonnement, enfin c'est nommé comme tel en tout cas.
Parce que vous dites qu'en central on y arrive très mal, voilà. Si vous me dites que vous y arrivez, ça me réjouit.
Je vais te dire une chose, c'est que ça se fait bizarrement, parce qu'on est quand même dans des institutions publiques, et que c'est compliqué, alors c'est pas que ça travaille trop, c'est que c'est compliqué de trouver des modes de travail qui soient suffisamment souples,
qui permettent d'ajouter tout le monde,
pour retrouver tout le monde, parce que les cours, ils sont individuels, les cours de musique, ça dure une demi-heure à une heure, les cours de théâtre, on fait durer des plages sur 4 heures de théâtre, voilà, on est dans des...
Là, on peut parler de la direction des conservatoires, parce que si le directeur est complètement convaincu par ce luxe, finalement, parce que c'est un luxe aujourd'hui, il l'inscrit dans les grilles. Moi, quand je travaille, c'est inscrit.
D'accord.
Et on travaille vraiment beaucoup avec des musiciens et des danseurs, des fois que avec eux, des fois avec les acteurs, il y a plein d'endroits de rencontres. Et puis, aussi sur Paris, il y a des ateliers de Beaux-Arts de Paris. Moi, j'ai 3 ans, je travaille avec les Beaux-Arts, ce qui ne se fait pas tellement dans les écoles supérieures, par exemple, et qui est un vrai endroit.
Pas du tout.
Voilà. Et je pense qu'il y a aussi là des endroits très forts de singularité qui sont nos lieux, qui, où ils côtoient peut-être plus facilement, parce que les Beaux-Arts, c'était très simple aussi, hein, donc c'est des espaces géographiques proches. Et puis dans le lieu même du conservatoire, où il y a les traditions, d'abord la musique, puis la danse, et nous en dernier, qui justement renversons la vapeur en faisant une sorte de locomotive.
Qui ça, peut agréger tout le monde.
Exactement.
Le plateau est agrégatif.
Les musiciens sont présents de Londres, et les danseurs aussi, ouais. Bien évidemment. Ce qui dit, vous avez la chance d'un théâtre contemporain, parce que ils sont dans cette vision-là de la chose. Après, ça se renverse. Mais on retrouve.
Alors après, il ne faut pas non plus. L'autre risque, c'est que le théâtre soit instrumentalisé tout d'un coup pour faire de la scène aux musiciens.
Un supplément d'âme.
Un supplément d'âme
par la scène. Oui. Voilà. Ça, c'est le risque.
Mais la question est très importante parce que c'est là-dessus que nous, on a besoin d'être aidés à notre niveau de ce qu'on appelle la formation initiale. On a besoin d'être aidés à ce niveau-là parce que je pense que ça peut faire école après. Je pense que c'est même ça peut aider la formation supérieure si nous, on est entendu au niveau du ministère ou ailleurs sur cette transversalité-là possible et sur les moyens pour faire exister cette transversalité. C'est-à-dire moyen de bouger un peu les lignes formelles, structurelles, comme ça, de ces écoles qui sont implantées dans les territoires et qui donnent accès à tous, à toutes les bourses, à une formation exigeante de l'art, quoi. Voilà.
Je prends avec mon autre casquette, mais je ne manquerai pas de relever. Non, parce que c'est au cœur de ma mission. C'est vraiment au cœur de ma mission, c'est de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble.
Les élèves se côtoient déjà physiquement. Ça, c'est une différence fondamentale. Il y a deux possibilités. Il y a ou des projets fédérateurs qui vont fédérer pendant un moment les élèves qui sont musiciens, danseurs, chanteurs, etc. Et puis, il y a aussi une autre possibilité, c'est que c'est inscrit dans l'enseignement initial des élèves d'art dramatique que, de toute façon, ils vont travailler avec un professeur de danse contemporaine, par exemple, et un professeur de chant. Mais après, ça fait boule de neige, parce que ce professeur de danse contemporaine et ce professeur de chant a forcément des élèves qu'il fait rencontrer des élèves d'art dramatique, etc. Bien sûr. Donc ça, c'est... Effectivement, moi, je vois bien ce que je te disais l'autre fois... Les séminaires de l'Empat, c'est bien, mais ce que je constate, c'est qu'il y a une méconnaissance, en fait, de ce qui se fait dans les états.
Mais résumons-le comme ça, c'est vrai.
Souvent, dans les prises de parole des gens qui interviennent, je ne reconnais absolument pas, et je ne reconnais pas mes collègues parce qu'on parle entre nous, mais c'est pas ça, c'est pas ce qu'on fait. C'est pas ce qu'on fait. Et ce qu'on fait est souvent ignoré. Voilà.
Non, mais je crois que c'est vrai, oui, il faut...
Il y a des établissements aussi, il y a des cycles 1, c'est tout petit, ne sont pas déterminés dans leur choix. Donc on leur propose en fait d'avoir à la fois des cours de musique, des cours de danse, des cours de théâtre, et seulement au bout d'une année, ils choisiront la spécialité vers laquelle ils vont se tourner. Par exemple, et donc c'est quand même des façons de penser, l'accès à l'enseignement des arts qui sont très ouvertes. Et de l'autre côté du cycle, vous avez aussi des ateliers qui peuvent exister au cycle 3, où vous avez des étudiants de cycle 3 danse, musique, théâtre, qui travaillent sur des temps dédiés pour ces étudiants sur une même heure, mais qui peuvent être pris en charge par le prof de théâtre, prof de danse ou le prof de musique, alternativement. Mmh.
Je suis désolé, puisque apparemment on doit libérer la salle, mais merci pour votre présence et puis ces quelques perspectives, on va dire.
Merci.
En plus, ça a amené de la liberté d'acteur, donc voilà. Je crois qu'on a à peu près cerné certaines choses importantes, et puis on s'est fait aussi apporter témoignage de ce qui se passe dans les conservatoires.